La deuxième aspect de cette dimension de conservation intégrée, c'est un accent ou un regard privilégié apporté à la préservation de l'habitat, notamment au niveau de l'habitat existant, qui constitue très souvent la majeure partie, l'essentiel de ces quartiers anciens, et qu'il convient de réfléchir à l'amélioration des logements dans le cadre de ces politiques de conservation intégrée. Que donc, quand on parle de politique de logement dans la ville, on doit réfléchir comment utilise-t-on le patrimoine, quelle est la situation actuelle du patrimoine et quelle est sa ressource en termes d'offre de logement, hein, par rapport à la demande ou à la situation existante. La deuxième idée force sur le plan de la doctrine, du Conseil, c'est la notion de cohésion sociale. L'idée de la cohésion sociale, qui est un discours important au niveau du Conseil, un discours récurrent, je dirais, qui fonde à la limite presque sa légitimité, c'est l'idée de préserver ou de mettre en place une série de valeurs qui permettent d'assurer à tous les citoyens un accès qui soit équivalent pour tous à l'ensemble des droits sociaux et économiques fondamentaux. Alors, quand on a dit ça, on a dit plein de choses, mais on n'a pas tout dit. Donc, ça veut dire, quand on se pose cette question, comment on la gère, comment elle se traduit dans le thème de la réhabilitation urbaine. Bien, elle se traduit sur trois idées. C'est la première idée, c'est que la contribution à l'amélioration du tissu social passe par l'amélioration du tissu urbain. C'est-à-dire, plus on conserve, plus on réhabilite, plus on entretient le tissu urbain, plus mieux le tissu social fonctionne et plus on améliore les relations sociales, le système de relations sociales. Et notamment, ça cible très directement des interventions privilégiées sur ce qu'on appelle les quartiers défavorisés, hein, qui sont souvent des quartiers qui constituent le cœur des villes parce que, dans le temps, souvent les riches sont partis parce qu'il y a eu une dégradation des conditions de vie, que c'est un habitat qui est un habitat implicitement un habitat social parce qu'il n'est pas cher, il n'y a pas de confort, on est souvent dans des situations qui peuvent frôler l'insalubrité, et donc viennent s'y installer des populations souvent les plus modestes, hein, qui trouvent là un habitat qui rentre dans leur situation de revenus et de budget. Et donc, une des priorités, une des conséquences de ça, hein, c'est effectivement de travailler sur l'amélioration du tissu urbain pour améliorer le tissu social. La deuxième dimension dans cette approche de la cohésion sociale, c'est le renforcement de l'intégration sociale par un travail d'intégration spatiale des différentes communautés, c'est-à-dire aujourd'hui, les sociétés urbaines sont de plus en plus, je le disais tout à l'heure, multiculturelles et souvent multiethniques. Alors, face à ça, il faut prendre une position, et une position claire. Ça veut dire que ces situations ne sont pas un frein au développement. Peuvent être une richesse, elles doivent être considérées comme une richesse, qu'il convient donc de les gérer, et de les gérer correctement dans le cadre des politiques urbaines. La tentation, souvent, c'est parce qu'on ne sait pas faire, délibérément, on considère qu'il y a des quartiers qui, peu à peu, s'enquistent autour de certaines communautés, communautarisme de certains quartiers de ville, et donc on laisse faire, et après on est devant une situation où on a effectivement de l'habitat dégradé, des situations sociales défavorisées, des replis et des marginalisations de populations de différences ethniques. Et donc, dans cette idée de cohésion sociale, et à travers les textes publiés par le Conseil, ce qui est mis en avant, c'est que l'appropriation de ces parties de population doit être largement prise en compte dans les cadres de processus de réhabilitation urbaine. Le troisième point sur cette dimension de la cohésion sociale, c'est le maintien et le renforcement de la diversité sociale, ou ce qu'on appelle autrement des fois la mixité sociale. Mais je trouve que la diversité sociale, c'est plus réaliste. Ça représente mieux la réalité que la mixité. En fait, la diversité sociale, c'est aussi un des éléments clés de la cohésion sociale. Quand on a dans un quartier des situations qui sont des situations diversifiées sur le plan social, des revenus, mais qui sont aussi diversifiées sur le plan générationnel, qu'on a à la fois des papis, des mamies et des jeunes, et toutes les générations entrent. On est dans des systèmes de relations sociales qui sont effectivement beaucoup plus riches que quand on est sur des quartiers monofonctionnels socialement, sur des mêmes tranches d'âge, pratiquement la même appartenance culturelle, la même appartenance en termes, un même niveau en termes de revenus, etc. Et que cette diversité sociale, c'est aussi sûrement, et c'est vrai, un des éléments clés de la cohésion sociale. Et ça établit donc un système de valeurs qui sont notamment la solidarité entre les générations. On voit dans certains quartiers les personnes âgées qui gardent les enfants à certains moments pour les voisins parce qu'ils sont disponibles, les parents qui vont prendre d'autres enfants, des plus jeunes, etc. Donc il y a toute une des réunions qui se font à l'intérieur des lieux de quartier ou des assos, etc. Et donc les liens de solidarité sont plus favorables quand on est dans un système comme ça que quand on est paradoxalement quand on est dans un univers qui est un monosocial. Et puis, à travers cette diversité sociale, ce qui est toujours très fort, c'est le sentiment d'appartenance à un quartier. Parce que les plus anciens racontent l'histoire du quartier. Ils sont là depuis longtemps, ils racontent l'histoire, les jeunes écoutent, deviennent à nouveau, s'approprient le quartier, parce qu'ils se rencontrent à la sortie des écoles, qui sont des lieux privilégiés de sociabilité. Il y a un certain nombre d'équipements de quartier qui sont donc importants. Et qui renforce ça, et qui fonctionne effectivement parfaitement bien. En fait, c'est des éléments extrêmement simples qui constituent, je dirais, la base de la vie urbaine et qu'on s'efforce de reproduire, notamment quand on travaille sur la périphérie, sur la périphérie des villes où on a des tissus urbains distendus ou des grandes concentrations, mais on est dans des endroits où il y a diversité culturelle marginalisée, on n'a pas de diversité sociale, et tout ce système urbain est en dysfonctionnement parce qu'effectivement, on n'a pas des éléments basiques qui constituent la vie sociale de la ville. Mais à travers ce principe, l'affirmation de ces principes, de ces éléments de doctrine, ce qui est dit aussi, c'est que tout ça ne se fait pas tout seul, tout ça se fait forcément avec l'intervention de la puissance publique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme automatique, il n'y a des mécanismes que à travers des politiques publiques qui sont mises en œuvre, qui sont effectivement gérées, affirmées dans la continuité. Et ça aussi, c'est un élément important parce que moi, j'ai vu à travers mes pérégrinations l'impression que quand on dit qu'il faut que la puissance publique intervienne, on parle du diable. Bon, je sais qu'il y a eu des périodes antérieures où elle était trop présente dans ces régions. Mais quand même, il ne faut pas que le balancier reparte complètement de l'autre côté. Il est important qu'il y ait un juste milieu et il y a des lieux, il y a des moments, il y a des thèmes où effectivement la puissance publique doit avoir son rôle de régulateur, d'ajustateur, d'initiateur. Parce que les choses, le système privé n'invente pas toujours tout seul les choses. Bon. Troisième dimension, et dernière que je citerai pour les fondements de la doctrine, c'est un élément qui me paraît, moi, fondamental, c'est le droit au logement. Le droit au logement, C'est un des droits fondamentaux qui constitue, on pourrait dire, avec le droit à l'emploi, enfin exprimé par le Conseil, avec le droit à l'emploi, le droit à la santé, la protection sociale, l'éducation et la non-discrimination, l'ensemble des droits fondamentaux qui sont affichés par la Charte sociale européenne telle qu'elle a été révisée. Mais ça veut dire que tout le monde a droit, sans discussion, a droit à un accès à un logement satisfaisant, qui soit convenable, et cela constitue une priorité et un enjeu majeur, notamment dans le cadre des rénovations urbaines, où souvent il y a péril dans la demeure par rapport à ça. En effet, comme je le disais, les quartiers anciens sont souvent synonymes de quartiers défavorisés. On y est dans de l'habitat qui est de l'habitat qui a été dégradé faute d'entretien dans le temps, parce que les propriétaires ont laissé filer leur héritage, soit parce qu'on est dans des situations historiques qui font que... Et l'habitat, c'est quand même le cœur de la ville, le cœur des quartiers anciens. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire d'un quartier ancien s'il n'y a plus personne. Si on y met simplement des institutions, des commerces de gadgets, et puis une visite de touristes avec trois hôtels de luxe, je ne sais pas ce que c'est. Moi, un quartier ancien, c'est un quartier de ville, c'est la quintessence de la ville. Et donc, si on enlève le logement, ou si on le maltraite, ça veut dire qu'il n'y a plus de ville. Donc, ok. Mais moi, j'ai le principe de dire qu'il n'y a de ville qu'habitée. Une ville qui n'est pas habitée, ce n'est pas une ville. Alors, parlons d'autre chose. Mais quand on parle de ça, ça renvoie à plusieurs choses. Mais je dirais que sur ce sujet-là, il y a eu une expérience forte au niveau du Conseil de l'Europe. C'est un travail qui s'est fait avec la ville de Lisbonne dans les années 99. Et la ville de Lisbonne avait engagé tout un travail de réhabilitation, de réflexion, un travail de réhabilitation sur un de ces quartiers, qui est un des quartiers historiques, qui est l'ancien quartier arabe associé au château Saint-Georges, sur le haut de Lisbonne, qui est le quartier de l'Alfama, et donc a entrepris tout un travail. Et quand on discutait avec mon ami Felipe Lopez là-dessus, c'était passionnant, parce que ce qu'il expliquait, c'est qu'il fallait engager le processus. Le Portugal n'était pas un pays riche, il n'est toujours pas d'ailleurs. Et donc, avec peu de moyens, qu'est-ce qu'on fait quand les propriétaires n'ont pas d'argent, mais qu'on est dans des situations d'habitat qui sont des situations extrêmement délicates, voire insalubres, notamment des anciens palais qui se sont complètement redivisés. Quand on a une amie qui est là depuis 50 ans, qui est bien dans son quartier, qui fonctionne, que le monde connaît, mais qui a besoin un peu de lui donner un peu d'air. Et donc, ils ont décliné toute une possibilité d'intervention, je dirais, de la plus modeste, mais qui changeait un petit peu la chose, jusqu'à des opérations plus banales et plus classiques, de restauration complète, pour faire notamment du logement social dans certains immeubles qui étaient disponibles. Et ce qui était intéressant, c'est tout ce travail très très fin, fait un accord avec la population, parce qu'il existe à Lisbonne une survivance qui est assez intéressante, qui s'appelle les paroisses, et ces paroisses sont dotées, sont reconnues par la municipalité, et sont dotées de moyens financiers. Et donc, pratiquement, ont été fabriqués des ateliers publics, entre guillemets, avec des moyens financiers qui travaillaient à la population pour savoir exactement comment ajuster, comment faire la chose. Et un jour, on était ensemble en Géorgie avec Philippe. Je lui ai dit, oui, mais c'est difficile, le logement ici, ils n'ont pas de ressources. Excusez-moi, je vais essayer d'accélérer. Ils n'ont pas de ressources, mais je ne sais pas trop comment faire, etc. Il me dit, écoute, on parlait de l'expérience de Lisbonne, on fait avec les moyens dont on dispose, mais on fait quelque chose, et on essaye de faire intelligemment, mais on fait avec ce qu'on a. Et donc je crois que c'est ça aussi l'idée, l'idée de l'accès au logement, du droit au logement, c'est d'intervenir. Alors, ça renvoie, ça renvoie à trois éléments forts dans le discours du Conseil là-dessus. C'est la lutte contre l'habitat indigne, voire la réduction de l'habitat insalubre. C'est une des premières priorités quand on parle du droit au logement. La deuxième, en conséquence de ça, c'est de dire que le bâti ancien, avant de tout projet, avant d'imaginer tout projet de construction neuve, le bâti ancien est le support privilégié de la réhabilitation et le support privilégié pour refabriquer du logement ou le moderniser, parce qu'on s'aperçoit qu'il se prête très, très favorablement à ces interventions. Et puis, hein, par rapport au discours ambiant d'aujourd'hui, ben c'est la figure exemplaire en termes de développement durable. On ne démolit pas pour reconstruire. Déjà, c'est pas mal, quand même. Hein. Et puis, troisième point, quand on parle de ça, ça veut dire que forcément, on est amené à prendre en compte la notion de la qualité des équipements publics, qui font partie de l'accompagnement naturel du logement. Je parlais des écoles tout à l'heure, mais c'est aussi l'espace public, le traitement de l'espace public. C'est-à-dire, on travaille forcément sur le quartier, on travaille forcément sur la ville, on travaille forcément sur un ensemble de tissus urbains. Je vais essayer d'aller vite. Excusez-moi, je suis trop bavard. Donc, dernier point que je souhaitais vous expliquer, c'est un peu comment le Conseil de l'Europe intervient sur... Ça, vous me dites, c'est un beau discours, tout ça, mais c'est quoi concrètement, quoi ? Alors, c'est beaucoup et peu de choses. Le Conseil de l'Europe travaille sous forme d'appui technique, hein, intervient sous forme d'appui technique auprès des États, enfin, la demande des États et auprès de certaines collectivités locales ensuite. Avec deux outils privilégiés, et il intervient dans un processus qu'on appelle des projets pilotes, c'est-à-dire que il est sollicité par un État ou une ville, mais via la direction, le ministère de la Culture. Et donc, il y a des discussions pour savoir comment on va construire un projet pilote. L'idée de projet pilote, c'est-à-dire que c'est la société locale qui va fabriquer son projet et que le Conseil va amener des experts qui vont donner des expériences, va amener son appui technique, va favoriser des échanges, aider les acteurs à aller voir ailleurs ce qui se passe, etc. Dans cette logique-là, il y a deux outils qui ont été privilégiés, qui ont vu le jour, qui sont un peu reconduits. Il y a ce qu'on appelle les plans de gestion. C'est grosso modo ce qu'on a pu voir à travers certaines des études qui ont été calées un peu sur des pratiques qui existaient dans l'Europe occidentale, notamment en France, qui visent à inscrire dans des démarches de planification urbaine une approche un peu plus sectorialisée avec un travail d'inventaire relativement important qui va généralement jusqu'au niveau du bâtiment, et donc c'est la prise de connaissance avec un certain nombre de pays, de cette manière de travailler, qui est souvent pas évidente. Mais oui, on est protégé. Je dis, mais quoi ? Protégé quoi ? Du papier, pour l'instant. Et donc, on a été amené, notamment dans le travail que j'ai fait à la ville de Tbilissi, on a commencé à faire des inventaires sur un secteur. Ça a permis de générer ensuite, de manière autonome, un plan de protection sur la ville de Tbilissi, mais avec plein de problèmes. Ils ont développé maintenant sur la deuxième ville de Géorgie, qui est la ville de Batoumi, superbe ville au bord de la mer Noire, un deuxième plan. Ils ont lancé, le ministère de la Culture a lancé un deuxième plan, effectivement, aussi, de type plan de protection du patrimoine, de gestion. Ça veut dire qu'on a donc toutes les caractéristiques qu'on trouve dans ce type d'outils. Hein. Mais avec les difficultés qu'on a, notamment dans certains de ces pays, c'est-à-dire tout le monde est d'accord et se penche sur le magnifique bébé en disant « Ah oui, c'est bien, ça, c'est une démarche, ça, c'est bien. » Mais en même temps, la mairie continue à laisser les investisseurs démolir des bâtiments parce que comme il n'y a aucune force légale et que le passage de l'outil à la traduction légale, ben, c'est un monde, quoi. Hein. C'est souvent des situations qui ont difficulté à aboutir. Et je vois la ville de Tbilissi, maintenant, l'utilise comme plan de négociation. C'est-à-dire que, en discussion, le ministère de la Culture, en discussion avec la ville de Tbilissi, utilise son plan de protection du patrimoine en disant ça, on n'y touche pas. Là, on peut regarder, il peut y avoir des démolitions, il peut y avoir des déconstructions. Tout ceci de manière informelle, puisque le plan n'a jamais été approuvé officiellement par un conseil des ministres quelconque, que ce soit. Donc voilà. Donc c'est un peu une difficulté de ces plans de gestion. Et puis, l'autre problème, c'est que faut du temps. Il faut 4, 5, 6 ans avant que l'ensemble suffisant de l'inventaire soit fait, que les discussions soient avancées, qu'on puisse formaliser les choses. C'est quelque chose de très lourd. Surtout quand on est des pays où il n'y a pas de cadastre, il faut commencer par faire un parcellaire. Donc c'est déjà une tâche importante. Ça a l'air de rien, mais c'est un gros boulot. Donc le Conseil a mis en place depuis plusieurs années aussi un nouvel outil qui est plus adapté d'ailleurs au fonctionnement du Conseil, qui sont des missions courtes et qui ne peuvent pas durer éternellement dans le temps, donc qui durent quelques années mais après s'arrêtent, et qui sont surtout de l'appui technique. Un outil qu'on a appelé les plans de référence, par référence justement à un outil qui existait à un certain moment donné en France qui permettait de travailler sur l'espace urbain, non pas essentiellement dans la dimension patrimoniale, mais parce qu'on s'est dit que ce qui était intéressant, c'est peut-être de travailler sur une réflexion de plan stratégique, opérationnel, qui s'échelonne sur des périodes de 3 à 5 ans et qui offre l'occasion sur une réflexion de l'ensemble de la ville ou d'un secteur de ville, permet d'identifier un certain nombre d'actions stratégiques que l'on va essayer de construire. Alors, quel est l'intérêt de cet outil ? Il est de plusieurs natures. D'une part, engager des actions opérationnelles, une réflexion opérationnelle, ça permet une prise de conscience plus rapide des problèmes, parce qu'on va parler de projets, on va parler de transformations concrètes. Ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on fait un plan de gestion, où on fait du recensement, on met en évidence, on discours dessus, mais là on est sur... Là on pourrait réhabiliter ça, on pourrait faire ça demain. Donc ça veut dire qu'en même temps, autour de ça, il y a un discours sur la valeur architecturale et urbaine du secteur, des bâtiments, sur la capacité de réutilisation, notamment au regard des fonctions modernes. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Est-ce qu'on continue à en faire du logement ? Mais sous quelles conditions ? Quels sont les travaux nécessaires à entreprendre ? Est-ce qu'on transforme ce bâtiment en crèche ? Est-ce que l'école, on la conserve pas là, mais plutôt le mettre ailleurs parce qu'il y a davantage de population, etc. Bon. Et donc il y a une valeur pédagogique qui est relativement importante parce qu'on travaille sur du domaine concret. Le deuxième point, qui est un point important, c'est que ça permet d'organiser une réflexion et un débat sur les priorités. On ne peut pas tout faire. On fait avec ce qu'on a, mais on fait. C'est la maxime de Lopez. Alors, on regarde qu'est-ce qu'on veut choisir comme action qui paraît importante et primordiale pour sauver le secteur, sauver le quartier. Et qui vont effectivement être primordiales parce qu'on considère que symboliquement elles sont fortes, mais en même temps, elles vont constituer un effet de levier parce qu'elles vont être la signification du changement. Et autour de ça, il y a des choses. On imagine qu'il y a des choses qui peuvent se produire. Si on réhabilite tel endroit, si on raménage un petit peu d'espace public à tel endroit, mais des choses vont changer. Ou si on aménage tel équipement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Mais ça veut dire en même temps, quand on dit ça, comment on le finance ? Quels moyens ? Qui s'y implique ? Quels sont les partenaires impliqués ? Le troisième aspect, c'est que ça permet de favoriser une démarche qui est une démarche complètement transversale, puisque pour travailler là-dessus, il faut y associer l'ensemble des institutions publiques, souvent, la municipalité bien sûr, mais les institutions d'État, ministère de l'urbanisme, ministère de la culture, ministère de l'environnement. Donc on a des tables où sont pas mal présentes de personnes. Et donc le thème du patrimoine, il devient un élément commun et partagé. Il y a en même temps un peu une sorte d'acculturation qui se passe dans ce système-là. Et puis on peut y associer aussi à l'occasion des partenaires privés qui commencent à comprendre qu'il y a peut-être un jeu qui est intéressant. Donc troisième idée, c'est on est bien dans une logique de conservation intégrée. C'est le meilleur moyen d'être sur le terrain de la conservation intégrée. Quatrième et dernier point, c'est avec ça qu'on peut organiser de manière très concrète et d'instaurer un débat avec les habitants. Quand on parle de projet, ça parle aux gens, puisqu'on parle de leur devant de porte, on parle de leur palier, on parle de leur école, on parle ainsi de suite des choses qui sont leur quotidienneté. Et donc avec ça, on est effectivement en plein dans ce qui est une des objectifs du Conseil, qui est l'instauration de la démocratie locale, l'instauration du débat citoyen. Et donc, c'est un peu ce qui a amené le Conseil, compte tenu, je disais, de son niveau d'intervention, qui sont un peu limités dans le temps, et de sa capacité limitée aussi en termes d'appui, de favoriser ce genre de réflexion qui n'est pas exclusive de la précédente, qui généralement, dans un certain temps, aboutit à l'idée que peut-être il faudrait faire aussi la précédente, parce qu'on a commencé par ça, et qu'on ne peut pas se résumer à 4 ou 5 actions, mais qu'il faut effectivement passer d'un cran supérieur. Voilà aujourd'hui les points sur lesquels travaille le Conseil. Le Conseil poursuit, bien sûr, ses expérimentations à travers le système des projets pilotes. Il a poursuivi notamment des expérimentations avec la communauté européenne en Slovénie, notamment dans les pays, alors je ne sais pas trop le contenu, je m'en excuse, mais dans les pays des Balkans, notamment à travers des territoires plus que sur des villes. Et puis, là, on démarre une nouvelle chose qui s'appelle l'initiative de Kiev, bon, parce que c'est passé à Kiev la décision, tout bêtement, comme la déclaration d'Amsterdam s'est passée à Amsterdam, et qui vise à travailler ensemble avec 5 pays, 2 pays riverains de la mer Noire qui sont l'Ukraine et la Moldavie, et les 3 républiques caucasiennes qui sont l'Azerbaïdjan, la Géorgie et l'Arménie. Et l'idée étant ensemble, ce qui est déjà compliqué d'ailleurs, c'est de mettre l'Arménie avec l'Azerbaïdjan. Mais on arrive à les mettre côte à côte et qu'ils se parlent. C'est déjà, même si on arrive à faire ça, c'est déjà pas mal parce que la guerre du Haut-Karabakh n'est toujours pas terminée. Et donc, on essaye de monter ensemble avec ces pays qui ont des patrimoines très différents, mais qui sont confrontés à des problématiques urbaines assez semblables, de regarder des thèmes sur lesquels on pourrait travailler qui permettraient de constituer une coopération entre ces pays d'Europe, et voir donc à partir de ça quel type d'outils on peut développer dans ces coopérations transfrontalières. Voilà, merci, excusez-moi, j'ai été vraiment beaucoup plus long que ce que j'avais dit, je suis confus, je serai battu, je sais.